de poursuivre. Je vous ai dit que je répondrai d'abord aux questions. Les questions qui étaient posées ce matin. La première question, au niveau des deux premiers moments de l'acte volontaire, la différence entre l'attitude stoïque et l'attitude chrétienne est claire. Mais dans le concret du choix des moyens et de l'exécution pratique, je ne vois pas bien la différence entre l'héroïsme de la sainteté et le stoïcisme. C'est pourtant bien important. Mais je comprends, je vois très bien. Donc, nous avons essayé de voir comment en nous il y a ce partage à l'intérieur même de la volonté, capacité d'amour qui conduit à la contemplation, réceptivité et volonté d'efficience, volonté de réalisation. C'est la même faculté, c'est la même puissance qu'il y a les deux. C'est pour ça que si tout va dans un sens, il ne restera plus rien pour l'autre sens. Vous comprenez bien. Et que nous sommes responsables en face de Dieu du développement même de notre volonté. Comme nous sommes responsables en face de Dieu du développement même de notre intelligence. Donc, il faut que nous prenions de plus en plus conscience que notre intelligence peut se développer dans le point de vue de la méditation ou de la contemplation. Et que si notre intelligence se développe uniquement du côté de la méditation, au bout d'un certain temps, il ne restera plus rien du tout du côté de la contemplation. On perd le sens de la contemplation. Ça peut arriver. En méditant. Nous avons une machine à méditer. Comme on perd le sens d'aimer en tombant dans l'efficacité pure. On pourrait dire que le stoïcisme représente très nettement dans l'histoire de l'humanité, c'est important pour nous parce que le stoïcisme régnait à Rome au moment où le christianisme est venu, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la philosophie qui a reçu le christianisme et c'est la première philosophie qui a été transformé par le christianisme, de fait. Toutes les études sur les pères de l'Église aujourd'hui montrent l'influence du stoïcisme sur les pères grecs. C'est vrai, c'est une philosophie qui a eu une très grande puissance, c'est une philosophie pratique. Alors c'est intéressant de voir comment le stoïcisme, c'est évidemment cette volonté d'efficacité qui domine. C'est pour ça qu'il n'y a plus, au sens rigoureux dans le stoïcisme, de contemplation. Parce que c'est le point de vue de la volonté d'efficacité qui domine et qui l'emporte. Et alors il n'y a plus que l'action vertueuse qui consiste à se dominer. Alors, vous allez tout de suite comprendre à partir de là la différence du choix des moyens dans l'attitude stoïcienne et dans l'attitude chrétienne. Dans l'attitude stoïcienne, le choix des moyens se fait toujours par rapport à cette volonté de domination. On prend les moyens en vue d'une efficacité plus grande, en vue de dominer davantage la situation. Tandis qu'au contraire, le choix des moyens du côté chrétien prend les moyens les plus aptes à la fin. Oui, qu'au fond, le stoïcisme est beaucoup plus subjectif. C'est même très très curieux de voir ça. Le stoïcisme, en réalité, c'est voir ce qui est le plus proche de ma volonté d'efficacité et que j'arriverai le mieux à dominer. Alors on colore cela de ce qu'il y a de plus héroïque, mais en réalité, c'est ce qui est le plus proche de moi. Alors que dans l'attitude chrétienne, je choisis les moyens héroïques en ce sens que ce sont ceux qui sont dictés par le Christ. Au-delà de la difficulté ou la non-difficulté, c'est secondaire, ça. C'est pas premier. quand on dit pratiquement, c'est une partie des maximes de Saint Jean de la Croix, il faut choisir toujours ce qui est le plus difficile. Il faut faire grande attention à ça. Parce que ça, c'est pas toujours l'attitude proprement chrétienne. Je crois qu'il faut faire un petit peu attention. Dans la perspective de saint Thomas ne dit jamais ça. Il ne faut jamais choisir le moyen le plus difficile. Il faut choisir le moyen qui permet le plus d'aimer. C'est très différent d'aimer le Christ, d'aimer ses frères. Alors, à certains moments, ce moyen peut paraître très difficile, héroïque. Il y a d'autres moyens, moins. Alors, voyez la différence entre le stoïcisme et l'attitude chrétienne, c'est la lumière dans laquelle vous choisissez votre moyen. Est-ce que vous choisissez ce moyen en vue de dominer, en vue d'une plus grande efficacité, ou est-ce que vous choisissez ce moyen en vue d'être plus uni au Christ, plus uni à vos frères? Alors là, je crois qu'il y a une conscience assez nette. Du côté de l'imperium, c'est plus difficile. L'imperium, donc le point de vue de l'exécution. Le point de vue de l'exécution a toujours quelque chose, évidemment, qui est beaucoup plus subjectif. Puisqu'il s'agit de dépasser la difficulté particulière de se jeter à l'eau. Et donc là, au fond, l'attitude chrétienne, c'est, sachant cette difficulté, revenir à l'amour. Et sachant que seul l'amour du Christ et l'amour du prochain me donnera la force de dépasser la difficulté. Tandis que l'attitude stoïcienne, ce serait un retour à une méditation plus profonde pour revisser les écrans. On regarde si tout est bien en place avant d'exécuter. C'est très différent là aussi. Revisser les écrans, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'attitude tout simplement subjective de retourner sur soi et de regarder si, de fait, nous sommes capables d'engager le combat. Oui, là encore, je crois qu'on peut dire que l'attitude stoïcienne consiste en un retour sur soi. Le stoïcisme est très, très retour sur soi. Tandis qu'au contraire, l'attitude chrétienne, ce n'est jamais la première attitude de retour sur soi. C'est toujours regarder le Christ et l'amour du prochain. C'est donc très, très différent, si vous voulez, dans l'attitude concrète. De l'extérieur, au point de vue purement psychologique, ça pourrait être très proche. Je ne sais pas si, au point de vue purement psychologique, on pourrait discerner. Parce que c'est très vrai qu'au point de vue purement psychologique, c'est-à-dire au point de vue du conditionnement, il y a des très grandes ressemblances entre les deux. Il y a des très grandes ressemblances. Mais la très grande différence, c'est le motif même intérieur. Le motif de l'amour, ou au contraire, le motif de dominer, qui n'est pas de bavure. Pour un vrai stoïcien, il ne doit pas y avoir de bavure. Pour le chrétien, ce n'est pas ça qui domine en premier regard. Parce qu'il accepte d'être un pauvre. Il accepte de ne pas réussir parfaitement. Vous voyez, j'espère que ça éclaire un peu. Si ce n'est pas suffisamment clair, que ceux pour qui il y a une difficulté le disent, hein. Qu'on est dans les questions, alors il ne faut pas hésiter de poser une question. Autre question posée. Alors celle-ci est beaucoup plus vaste, elle a quelque chose de très général et elle est très importante. Ça ne veut pas dire que l'autre n'était pas importante. La vie d'obéissance à Marie demande un abandon radical. Tout à fait d'accord. L'abandon à l'Esprit Saint, l'abandon à la Très Sainte Vierge sont identiques dans la pratique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils sont identiques dans la pratique. S'abandonner à Marie, s'abandonner à l'Esprit Saint, je crois qu'au point de vue profond, dans notre foi et dans notre attitude d'espérance et d'amour, c'est identique. Oui, c'est ce que Saint-Germain-Montfort a très bien saisi. La vie d'obéissance à Marie demande un abandon radical. On s'abandonne et on désire faire son bon plaisir, comme on désire faire le bon plaisir de l'Esprit-Saint. Est-ce que vous pourriez préciser la manière juste dont la volonté s'applique à cet abandon? Alors comprenons bien. L'attitude d'abandon, c'est une attitude d'exécution. La volonté d'exécution est présente, mais c'est une volonté d'exécution qui accepte de disparaître pour la volonté d'amour. C'est comme ça que je définirais l'abandon, en termes théologiques, dans la mesure où on a vu la différence entre la volonté d'amour et la volonté d'exécution. Vous avez vu combien l'évangile de ce matin est admirable pour vous montrer la différence entre la volonté d'amour et la volonté d'exécution. Enfin, je n'ai pas voulu trop continuer pour la prédication, l'enseignement de qu'on avait ici, mais ça aurait été un petit peu trop théologique, mais j'avais grande envie. On peut illuminer ça, notre volonté d'exécution, la brave samaritaine, volonté d'exécution avec la cruche. Ça, c'est une volonté d'exécution, c'est tout, elle n'a que ça à faire. Elle n'était pas très stoïcienne, quoique elle pouvait devenir stoïcienne. On peut devenir stoïcien par les malheurs. Il y a des gens qui viennent stoïciens parce qu'ils ont été éprouvés dans leur cœur, et alors leur cœur se durcit. Et Jésus lui rend un cœur doux et un cœur aimant. C'est merveilleux, ça. C'est la manière dont Jésus fait ça. Il y a une psychanalyse divine, radicale. Si j'étais psychanalyste chrétien, je prendrais ça comme exemple, moi. Et j'essaierais de voir comment, de fait, Jésus, en un tour de main, enlève toute couche. Cinq. En un seul coup. Cinq faux pansements. N'est-ce pas ? Cinq faux pansements qui ont été ratés dans le vêtement, parce que les pansements se sont faits successivement sans venir à la pureté radicale. Jésus en a rien de temps. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est très important. Parce que ça fait comprendre à des évangiles les plus étonnants pour soi, pour ça. Vous voyez, je n'y pensais pas ce matin en vous le disant. Et quand, en relisant l'évangile, après avoir médité auprès du Seigneur la volonté d'amour et la volonté d'efficience, je me dis, comme c'est extraordinaire. Hein, c'est exactement ça, l'humanité qui s'enferme dans la volonté d'efficacité. C'est ça la Samaritaine, réduite à la corvée d'eau. Une humanité qui ne sait plus aimer, une humanité qui manque d'amour, c'est bien évident. Et Jésus est là, qui demande à cette humanité qui ne sait plus aimer, donne-moi à boire. C'était pas Jésus, on dirait c'est ironique. Hein. C'est pas de l'ironie, c'est de l'ironie divine. Parce que Jésus devance, et il veut nous donner lui-même la possibilité d'aimer. Alors, comprenons que l'abandon, l'abandon au Saint-Esprit et l'abandon à la Très-Sainte Vierge consiste à mettre notre volonté d'efficacité entièrement au service de la volonté d'amour. C'est pour ça que c'est si radical, l'abandon. Toute notre possibilité d'efficacité, nous le remettons entre les mains du Saint-Esprit. Nous le remettons dans le cœur de Marie. Et nous ne voulons plus qu'une seule chose, c'est que Marie et l'Esprit Saint passent toujours devant. Et que toutes les décisions, nous les prenions en communion avec l'Esprit Saint, avec Marie. C'est ça l'acte d'abandon, l'attitude d'abandon. C'est pour ça que c'est si radical, c'est une purification très très profonde. Hein. On peut dire que c'est la première exigence de l'Évangile, moi je crois. Ce qu'il y a de plus radical dans l'Évangile, c'est ça, c'est l'attitude d'abandon. C'est ce que Jésus nous demande en premier lieu. Et remarquez, hein, selon saint Albert le Grand, l'abandon est le fruit direct de la pauvreté. Je dis ça en fonction de la lecture de tout à l'heure. C'est le fruit direct de la pauvreté. Chaque fois que nous manquons d'abandon, c'est parce qu'il manque de pauvreté. Et c'est le signal. Vous savez, saint Albert le Grand donne ce signe très très joli, alors à la manière d'Albert le Grand. Albert le Grand, quand il commente le livre de Job, dit que Dieu donne la pâture aux petits des corbeaux. Bon. Alors Albert le Grand, qui aime de regarder la nature, Albert le Grand a regardé un nid de corbeau. Quand vous regardez un nid de corbeau, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, un nid de corbeau dans lequel les petits viennent de naître, on ne voit que des becs ouverts. Parce que le corbeau, quand il est tout petit, il a un bec énorme, proportionnellement à son corps. C'est très curieux de voir ça. Il a un bec énorme. Alors évidemment, on voit très bien le ver le grand, ayant regardé ce nid de corbeau, et avoir vu uniquement des becs ouverts. Alors Albert le Grand, là, la petite fantaisie, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, jolie petite fantaisie du Moyen-Âge, en disant, mais oui, c'est pas étonnant, parce que le corbeau noir ne reconnaît pas ses petits qui sont blancs, alors il les laisse, et ils ont le bec ouvert, et c'est la Providence qui leur apporte leur nourriture. Donc, très très joli ça. Une herméneutique admirable. Alors on voit très bien les petits des corbeaux qui sont blancs, tant qu'ils sont blancs, leur mère ne les reconnaît pas. Et donc c'est la Providence qui les nourrit. Alors saint Albert le Grand après donne ce commentaire très sérieux, après cette petite illustration, n'est-ce pas, qui fait sourire. Albert le Grand dit, et oui, ils font, la pauvreté nous remet dans les mains de Dieu. Et nous abandonne entièrement à Dieu. Et donc la pauvreté nous apprend l'abandon. Alors, comme la première béatitude, c'est la béatitude des pauvres, on comprend très bien que le fruit profond de l'abandon, ce soit la pauvreté, pauvreté intérieure. Alors, vous voyez cette chose très importante. Donc, est-ce que vous pourriez préciser la manière juste dont la volonté s'applique à cet abandon ? Donc, notre volonté, parce que c'est un acte volontaire de s'abandonner, et nous devons le refaire indéfiniment, surtout quand on sent un tout petit peu la fébrilité de la volonté déficiente. La fébrilité de la volonté déficiente qui est mesurée par le temps, le travail que nous devons faire. Ce travail que nous savons très bien qui demande tant de temps. Et on nous a demandé juste avant un acte héroïque d'obéissance. Et on sait très bien que ce ne sera pas commode d'unir les deux. Alors à ce moment-là, il y a une toute petite agitation qui se fait. N'est-ce pas ? Tempête à l'intérieur du lac. Alors il y a une petite agitation qui se fait, on devient fébrile et on perd l'attitude d'abandon. Être dans l'attitude d'abandon quand tout se déroule normalement comme c'est prévu, c'est facile. C'est très facile, parce qu'alors on est dans l'attitude d'abandon, c'est très très bien, il y a du beau temps, c'est magnifique. Tout va dans le même sens. Alors ça va très bien. Ce qui est très difficile de garder l'attitude d'abandon, c'est quand justement il y a un imprévu. Il y a un imprévu qui provient de l'obéissance, donc un imprévu qui nous coupe la tête et qui vient vraiment au bon moment. Alors à ce moment-là, c'est très difficile de garder l'attitude d'abandon. C'est beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce que nous devons faire ? Eh bien, nous devons toujours revenir à ce fait que nous ne faisons pas notre œuvre. Je crois que c'est ça qui radicalement nous remet entre les mains du Père. Vous voyez, c'est cette volonté d'exécution, cette volonté d'efficience, qui revient à la source, qui se remet à la source. Et alors, la source profonde, c'est justement cette volonté d'amour. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre attitude. C'est pour ça que l'abandon nous oblige de ne pas quitter la source. La source, c'est notre cœur lié au cœur du Christ, hein? Notre cœur lié au cœur de Marie. Et nous recevons son amour, l'eau vive, parce que nous sommes liés à la source. Est-ce que vous pourriez préciser la manière juste dont la volonté s'implique à cet abandon ? C'est ça l'abandon. On remet tout notre pouvoir d'exécution, nous le remettons au bon plaisir de Dieu. Donc nous le remettons à son amour. Et Jésus en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et nous remettons tout cela au bon plaisir du Père. Quelles sont les caractéristiques d'un acte vécu à l'intérieur de l'abandon, aux différents moments de l'acte humain que vous avez expliqué ? Très juste. Dans l'acte d'abandon, il y a donc, si vous voulez, une volonté de rester lié toujours le plus possible à cet amour, pour ne faire que la volonté du Père. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Si vous m'aimez, eh bien l'abandon insiste sur le si. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Nous comprenons que nous ne pouvons réaliser les commandements de Dieu, exécuter les commandements de Dieu, que si on l'aime. Et donc l'attitude de l'abandon, ce sera toujours un souci d'être le plus humble, le plus possible uni à la source. C'est pour ça que c'est une attitude contemplative. Je crois que l'abandon dispose merveilleusement à la contemplation. C'est pas la contemplation, mais c'est tout proche. Et donc, c'est ne jamais quitter ce bon plaisir de Dieu. Comprendre que c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors, le choix, vous voyez, le choix qui demande notre initiative, l'information qui demande notre initiative, se fera dans cette lumière. Nous ne pouvons jamais savoir avec certitude si ce que nous avons choisi est bien la volonté de Dieu. Nous ne pouvons jamais le savoir d'une façon absolue. Celui qui prétend risque toujours de tomber dans l'illuminisme. Mais celui qui dit « Je sais de volonté absolument sûre que je devais être au milieu de vous aujourd'hui. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. À moins d'avoir reçu une illumination particulière de Dieu qui dit « Tu te rendras ». Ça, dans les Actes des Apôtres, on voit ça. Quand le diacre Philippe est pris par les cheveux pour rejoindre l'Éthiopien, ça, il pouvait être à peu près sûr que Dieu voulait qu'il rejoigne l'Éthiopien. Il avait compris à ce moment-là. Mais c'est plutôt rare que Dieu nous prenne par nos cheveux pour nous conduire à tel endroit. Plutôt rare. Ça, c'est l'aspect charismatique dans notre vie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous savez très bien, c'est le charisme. Il faut faire attention, du charisme ne donne pas glisser à l'illuminisme. C'est le très grand danger. Le très grand danger, c'est de bloquer les deux. Le charisme est gratuit, il est donné momentanément. Dieu peut nous donner à certains moments une très grande lumière. On dit c'est une lumière charismatique. Vraiment, Dieu m'a éclairé à ce moment-là. Mais faisons attention, ça ne nous appartient pas. C'est charismatique. Et alors, ça tombe dans l'illuminisme quand nous voulons répéter. Le phénomène de la répétition. Mais chaque fois que je suis dans cette circonstance, Dieu m'illumine. Alors à ce moment-là, voyons, on voit sur le bouton l'illumination. Il suffit qu'on soit un peu intuitif, tout simplement. Alors on prend son intuition pour l'illumination du Saint-Esprit. Alors ça, c'est très dangereux. Parce qu'il faut bien comprendre que la béatitude des cœurs purs, c'est au niveau de l'intention. Donc c'est au niveau de l'abandon. C'est au niveau de l'intention et au niveau de notre cœur qui aime. Et non pas au niveau des choix des moyens. Il n'y a pas de béatitude au niveau des choix des moyens. Dieu là laisse notre conditionnement humain se dérouler normalement. Notre conditionnement humain implique notre prudence. Nous devons réfléchir pour savoir exactement ce que nous devons faire quand nous sommes responsables de nous, quand nous sommes responsables des autres. Vous voyez, alors là intervient la prudence, le choix des moyens. Intervient la prudence éclairée par la foi, illuminée par la foi. Donc une prudence tout entière tournée vers l'amour, autrement elle ne serait pas la vraie prudence, mais une prudence qui sait voir exactement ce qu'on représente. Ces différentes qualités de ces moyens. Alors, une prudence va impliquer nos initiatives. L'abandon ne supprime pas les initiatives. Ça, il faut bien comprendre ça. Parce qu'autrement, on confondrait l'abandon divin et l'abandon psychologique. Vous savez bien qu'il faut faire une très grande différence entre les deux. L'abandon psychologique, c'est le manque de détermination. Manque de vertèbres. L'abandon psychologique n'est pas une béatitude. L'abandon psychologique, c'est un état dans lequel on est. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui sont abandonnés psychologiquement. Ça ne veut rien dire au point de la sainteté. Ça ne veut rien dire du tout. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout abandonnés psychologiquement. Alors, ça fait partie d'un caractère et d'un tempérament différent. On est abandonné psychologiquement ou on n'est pas abandonné psychologiquement. Donc ça n'a rien à voir avec la sainteté. Tandis que l'abandon évangélique implique une détermination fondamentale. On n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. On n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté de Marie. c'est d'accomplir la volonté de l'Esprit Saint. On n'a que ce désir-là. Ça, c'est très très important de comprendre cela. Oui, c'est pour ça que l'abandon psychologique supprime toutes les initiatives. On est complètement inhibé. On a les reins cassés. Et les côtes avec. Alors, on ne peut même plus se tenir debout. On ne peut plus être stabat. Parce qu'on n'a plus qu'une seule attitude, c'est la verticale. On ne peut plus. L'horizontale. On a que cette attitude-là. C'est l'horizontale, la seule attitude possible. Et on descend le fleuve. Hein. C'est la spiritualité de celui qui descend le fleuve. Quand on a, justement, quand on est dans l'abandon psychologique, on fait comme tout le monde. Et quand vous demandez pourquoi vous faites ça, vous dites, tout le monde le fait. Ce qui n'est pas un motif évangélique. Hein. Ça n'a jamais été dit en évangile. Le Seigneur ne nous a jamais dit ça. Faire comme tout le monde. Regardez bien, avant d'agir, regardez bien à droite et à gauche ce qu'ils font et faites de même. N'est-ce pas ? Alors ça fait partie de ces maximes qui sont les maximes de l'abandon psychologique. On n'a plus assez de force de se tenir debout. Alors Jean-Baptiste se tient debout au désert, Marie se tient debout à la croix. Quand même l'attitude des pauvres, complètement abandonnés, mais qui sont debout. Un pauvre est debout. Alors ça c'est très très important à comprendre, parce que le démon n'aime pas l'abandon divin. Tandis que le démon essaie de s'infiltrer dans l'abandon psychologique. Il ne faut pas l'oublier. Alors au nom de l'abandon psychologique, on perd toute vertèbre. On perd toute détermination, ce qui est très très mauvais. Surtout noviciat, ça. Noviciat, il faut surtout faire attention. Ne pas faire qu'au noviciat où on doit s'assouplir, on fait des exercices d'assouplissement, n'est-ce pas ? Alors, les exercices d'assouplissement consistent à garder une orientation toujours plus nette vers le point de vue de la finalité, c'est-à-dire vers l'amour de Dieu, mais surtout pas perdre ses vertèbres. Surtout pas perdre, vous voyez. Tomber dans l'abandon psychologique, parce que l'abandon psychologique n'est pas quelque chose de vertueux. Je vous dis, c'est un état. Pas confondre les deux. Alors, ceci nous fait comprendre comment, dans l'attitude de l'abandon divin, de l'abandon évangélique, sûrement que quand cette attitude est très forte en nous, constamment l'Esprit Saint nous demande de ne pas intervenir. C'est très vrai. Il suspend nos choix. Ça, c'est extraordinaire de voir la manière dont le Saint-Esprit nous demande de suspendre nos choix, de ne pas choisir, de laisser. C'est pas laisser aller, hein. Laisser aller les autres. Descendre le fleuve comme un torrent. Et nous, tout simplement, remonter à la source. Ne pas s'inquiéter et remonter à la source. Alors Dieu nous met à ce moment-là dans la solitude et nous demande d'accepter la solitude. Et il laisse regarder le torrent qui descend. Parce qu'à certains moments, hein, quand il a plu la nuit, le torrent est particulièrement véhément. Et là on voit très bien, à certains moments, c'est pas commode de rester dans cette attitude d'abandon et de ne pas intervenir. De rester fidèle à ce que Dieu réclame au plus intime de notre cœur. Mais à certains moments, quand on est dans cette attitude-là, il pourra très bien nous demander d'intervenir. Vous voyez, c'est là où on voit très bien la souplesse qu'il faut garder. Et alors le choix qu'il nous demandera d'un moyen pour essayer de parer à certaines luttes ou à certains obstacles, de ne pas nous laisser envahir par le torrent qui grossit. Et donc, de maintenir en nous une lucidité très grande, eh bien, ce choix, nous le ferons dans la lumière de l'abandon, en disant au Seigneur, je choisis ça parce que je crois que je dois le faire, mais si ce n'est pas votre volonté, enlevez l'efficacité de ce choix. Vous voyez, on offre au Seigneur l'efficacité et le fruit. Je crois que ça, c'est ça que fait l'abandon. D'avance, on offre au Seigneur le fruit de notre volonté d'efficacité. D'avance, on offre au Seigneur l'œuvre, si vous voulez. Donc, on ne peut plus s'en glorifier, c'est offert. Et alors, c'est en ce sens-là que l'abandon maintient en nous cette pauvreté intérieure. Elle est fruit de la pauvreté, elle maintient en nous la pauvreté. Quand on choisit quelque chose, normalement, on veut que ça aille jusqu'au bout et que ce soit efficace. Ça fait partie du moyen, ce que nous avions vu, volonté d'efficacité. Eh bien, quand on choisit dans une attitude d'abandon, on remet tout à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie, en disant que ce n'est pas notre œuvre. Vous voyez, alors on agit presque comme instrument de Dieu. C'est l'attitude de l'instrument. Vous savez bien, je vous ai déjà dit, vous l'aviez vu à propos du sacerdoce, cette définition merveilleuse au point de vue métaphysique de l'instrument. Celui qui regarde plus la volonté de la cause principale que l'œuvre qu'il fait. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que met l'abandon dans notre choix. Nous regardons plus notre dépendance à l'égard de la volonté de Dieu que l'œuvre que nous devons réaliser. Alors que quand nous sommes en plein dans l'activité, en plein le feu de l'action, quand vraiment l'abandon n'est plus très présent, on regarde beaucoup plus le résultat, l'œuvre qu'on fait. Et on veut à tout prix que ça réussisse. Oui. Alors à ce moment-là, toute notre volonté d'efficacité est la présente. Mais à ce moment-là, on quitte un peu l'attitude contemplative. Le contemplatif, quand il doit agir, agit toujours d'une manière magnanime. Ça, c'est quelque chose aussi très grand qui nous fait comprendre l'attitude de l'abandon divin. C'est peut-être la caractéristique de la magnanimité. Vous savez ce que c'est que le magnanime ? La grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est justement agir pour des motifs qui sont toujours très grands et qui ne sont pas nos petits motifs. Quand nous agissons uniquement en actif, dans une volonté d'efficacité, on est pris par l'urgence des cas particuliers, de l'immédiat. Et là, forcément, on n'a plus le même regard qui dépasse la contingence. Le magnanime dépasse toujours la contingence. Il regarde toujours la relativité des moyens. Il fait tout pour glorifier Dieu. Il fait tout en motif divin de contemplatif. Il agit parce qu'il doit agir. Il est là parce que Dieu veut qu'il soit là. Mais il n'a qu'un seul désir, c'est de retourner dans son désert. Il n'a qu'un seul désir, c'est de retourner dans sa solitude. Mais il sait très bien qu'il doit être là et il l'accepte. Oui, il accepte, il ne refusera pas du tout d'être là et de choisir et d'opter, mais il optera avec un cœur grand, c'est-à-dire en essayant de comprendre les motifs mêmes de Dieu. Sans tomber dans l'illuminisme, c'est tout à fait autre chose, l'illuminisme et la grandeur du cœur, vous voyez. L'illuminisme, c'est du côté de l'intelligence et du côté de la certitude. Alors on est certain que ce qu'on fait, c'est bien ce que Dieu veut. Et alors on dit à son adversaire: j'agis comme Dieu veut, c'est vous qui agissez sur des motifs sordides. Hein. Alors à ce moment-là, la lutte, vous voyez, se fait vraiment comme... C'est très curieux de voir des illuminés qui luttent ensemble, hein, l'un contre l'autre, parce que tous les deux sont persuadés d'être illuminés par Dieu dans leur activité, et alors à ce moment-là, c'est, ça chauffe. Tandis qu'au contraire, le magnanime, c'est très bien qu'il est toujours dans l'obscurité de la foi. Il agit parce qu'il est intérieurement poussé à agir et désireux de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, mais il sait très bien qu'il peut toujours se tromper. Donc il n'a pas du tout cette espèce de certitude de l'illuminé, mais il est magnanime. C'est pour ça que je dirais, c'est vraiment cette note, cette caractéristique de la magnanimité qui transforme tous les moments de l'acte humain quand ils sont réalisés dans cette attitude de l'abandon. Dernière question. Souvent, quand on parle d'actes, on parle surtout des actes extérieurs. Est-ce qu'en particulier dans l'abandon, il n'y a pas un acte intérieur beaucoup plus essentiel sur lequel se greffent tous les autres actes? C'est évident, ici j'emploie acte dans le sens aussi bien d'acte intérieur et d'acte extérieur. Et l'acte est d'abord intérieur. L'amour est un acte. C'est un acte intérieur. Le choix est un acte intérieur aussi, du reste. n'y a que l'exécution qui nous met immédiatement dans les actes extérieurs. Alors ça, c'est bien évident. Je prends là acte au sens le plus général, c'est-à-dire nos opérations vitales, nos opérations volontaires, qui sont d'abord intérieures, et en premier lieu intérieures. Alors, la petite question, nota bene, lien entre se porter vers et se laisser attirer. C'est aussi très important, ça. Se porter vers l'inclination, l'appétit, est une inclination vers. Nous sommes inclinés vers. L'amour, c'est se laisser attirer. Alors, vous voyez, c'est curieux. Les deux choses se conjuguent dans l'acte de l'amour. L'acte de l'amour présuppose cet appétit spirituel qui se porte vers. On se porte vers le bien. Mais naturellement, on se porte vers le bien. Il y a un ordre naturel de se porter vers le bien. Tandis que l'amour, c'est la réponse profonde que nous faisons à l'attraction du bien. Et on se laisse attirer vers le bien. Ça, je dirais que se laisser attirer vers le bien est quelque chose de plus profond que se porter vers. Je crois qu'on pourrait dire que se laisser attirer présuppose de se porter vers, mais c'est l'acte second, si vous voulez. Hein. L'acte premier, c'est se porter vers. C'est la chose normale, on se porte vers le bien. On se porte normalement vers le bien. Mais ce n'est pas encore notre réponse. Notre réponse libre, c'est se laisser attirer. C'est d'accepter que le bien nous emporte. C'est d'accepter d'être arraché à soi-même par le bien. C'est se laisser attirer. C'est d'être délogé. On est délogé quand on aime. On n'est plus en soi. On est dans celui qu'on aime. Et alors ça, c'est vraiment la réponse profonde de l'amour. Tandis que se porter vers, c'est l'inclination naturelle. C'est l'inclination normale. Normalement, notre volonté se porte vers le bien. Alors, avant de répondre aux autres objections, il y a quelque chose que j'avais oublié de dire ce matin. Et je crois que c'est éclairant et ça peut aider à comprendre. C'est à propos de Descartes. On oublie toujours les erreurs. Alors, quand il s'agit de Descartes, je vous avais dit, rappelez-vous, hein, quand je vous avais dit à propos de Descartes, que Descartes, c'était la raison. Descartes considère que l'amour, c'est au niveau passion. C'est très important. Et entre deux, il met la liberté. Autrement dit, Descartes met la liberté au-delà de l'amour. Ce qui explique comment, dans toutes les philosophies post-cartésiennes, et ici je pense sûrement à Sartre, la liberté est prise comme un absolu. Alors, la liberté relève, vous voyez, on a la volonté d'efficacité. La volonté d'efficacité, et puis l'amour passionnel. La volonté d'efficacité réclame la liberté. Et la liberté va naître à l'intérieur de la volonté d'efficacité, au-delà de l'amour. Oui, si vous essayez de prendre les trois moments que je vous avais donnés ce matin à propos de Descartes, hein, vous avez donné la raison, la volonté d'efficacité et l'amour passionnel. Et où situer la liberté ? Alors, la liberté se situe dans cette volonté d'efficacité. Très curieux, du reste. Et pour Descartes, la liberté est le et l'absolu de notre volonté. Ce n'est pas l'amour. Tandis que je vous ai montré, j'espère que vous l'avez suffisamment vu, que la liberté accompagne notre volonté, mais elle ne constitue pas notre acte volontaire dans ce qu'il y a de plus profond. Notre acte volontaire dans ce qu'il y a de plus profond est une volonté d'amour qui implique une volonté d'efficacité, en vue d'une volonté d'amour. Et que cette volonté d'amour et cette volonté d'efficacité, présupposant toujours l'intelligence, va impliquer comme mode particulier d'être libre. La liberté est un mode. Ça ne constitue pas l'acte volontaire. L'acte volontaire est ou libre ou n'est pas libre. C'est une modalité. Ce n'est pas ce qui constitue. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de Descartes, la liberté constitue la volonté d'efficacité. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est la liberté qui nous met le plus proche possible de Dieu. C'est très très curieux. C'est la raison d'infini, c'est les deux choses qui sont par où nous rejoignons Dieu. Nous avons l'idée d'infini dans notre raison et nous avons la liberté. Et je crois même que la liberté va être quelque chose qui va passer devant l'infini. Et c'est par la liberté qu'on va rejoindre le plus Dieu. Autrement dit, le duvet profond de notre volonté n'est plus l'amour, mais la liberté. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus de contemplation. Et il y a uniquement agir librement dans l'autonomie la plus parfaite pour montrer qu'on agit de la part de Dieu, qu'on agit en Dieu, j'allais presque dire, qu'on agit en Dieu. C'est dans la mesure même, on agit librement, tandis qu'au contraire, on dirait, alors il n'y a plus d'abandon. Hein. Vous voyez l'abandon chez Descartes, dans cette perspective-là, où situer l'abandon? Il y a l'abandon, je crois, sera un moment de l'indifférence. Pour choisir profondément et être sûr que le choix soit divin, mettez-vous dans une attitude d'indifférence, la sainte indifférence. Alors à ce moment-là, tandis que nous, nous irons l'abandon. Mais il y a une très grosse différence entre les deux. Et ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'abandon. La sainte indifférence consiste à prendre du recul en se disant je choisis ceci, je choisis cela, je mets des gars. Alors mettez-vous dans une attitude d'indifférence, alors à ce moment-là vous pourrez choisir vraiment. Je ne crois pas du tout, personnellement. Je crois que c'est l'abandon remis entre les mains de Dieu, remis entre les mains du Père, qui nous permet de faire un choix qui soit à l'intérieur de l'abandon et pas nécessairement dans l'indifférence. Mais toujours les liens entre l'intelligence et la volonté, hein, entre les deux. Et ceci, on le comprend très bien parce que la liberté passe avant l'amour. Alors, dans la mesure où la liberté passe avant l'amour, l'indifférence passe avant l'abandon. Et il faudrait détecter, parce que nous sommes tous un peu imprégnés de ça, hein. Il faudrait détecter dans notre vie, concrètement, comment, quelquefois, nous confondons l'indifférence et l'abandon. Et je crois que c'est important de ne pas confondre les deux. Il n'est jamais dit dans l'Évangile que d'être indifférent. Oui, Saint Ignace, je le sais, mais Saint Ignace, faisons attention, Saint Ignace, que lui, dans les exercices, mais je parle des successeurs de Saint Ignace, hein. Pas de Saint Ignace lui-même. Mais vous voyez, les successeurs de Saint Ignace, on a tous fait la retraite de Saint Indifférence. Vous pourrez choisir dans la mesure. Et alors à ce moment-là, le prédicateur vous regarde, il dit oh, je sais très bien ce qu'il vous faut. Alors, à ce moment-là, il vous a désarmé et puis il vous impose. Oh, c'est pas ça du tout l'abandon. Ah, j'ai vécu ça d'une façon très très nette, grâce à quelqu'un qui au fond m'éclairait. Il m'avait dit attention, prends la résolution de ne pas prendre de décision. C'était merveilleux, c'était l'abandon donc. Et le prédicateur de retraite en disant mais oui, je vois très bien ce qu'il vous faut. Après vous avoir mis dans la sainte indifférence. Soyez complètement dans l'indifférence. Puis il vous dit voilà, je vois très bien. Ah, attention, je ne crois pas du tout que Saint Ignace irait ça à moi. Vous voyez ? Saint Ignace, la sainte indifférence de Saint Ignace, je vois bien. C'est une manière psychologique de parler de l'abandon. Mais c'est très dangereux, ce qu'on en a fait. Je crois que nous devons revenir, nous, à l'abandon évangélique, qui est un au-delà, parce que c'est une attitude beaucoup plus profonde au point de vue de la volonté, tandis que l'indifférence, vous voyez, se met du côté, justement, beaucoup plus de la liberté. Il ne faut pas oublier, hein, c'est curieux, vous savez, l'histoire de la Sainte Compagnie de Jésus. C'est très, très curieux. Je l'aime beaucoup, là, je peux en parler. Mais c'est très curieux. Parce que saint Ignace dit à propos, vous savez, de la fameuse question qui commençait à exister à ce moment-là, au point de vue des rapports entre la volonté de Dieu et la volonté humaine, entre les rapports de la grâce. Et saint Ignace dit ouvertement, il faut que la compagnie défende la liberté humaine. Et affirme combien la liberté de l'homme dans la question de la grâce est, il ne dit pas première, mais est capitale. Nous sommes tous d'accord que la liberté demeure. Mais peut-être qu'il faut affirmer davantage la gratuité de la grâce. Très curieux, ce moment qui a existé, c'est la fameuse question pour la prédestination de la science moyenne. Enfin, la science moyenne n'a pas été inventée par la compagnie, elle a été inventée par les théologiens de Louvain. C'est les théologiens de Louvain qui ont inventé le point de vue de la science moyenne. Et c'est à ce moment-là que Saint Ignace a dit, eh bien, il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire sauver la liberté de l'homme. Bon, je ne juge pas selon les moments. Apologétiquement, ça pouvait être très important à ce moment-là. Mais ce qui est dangereux, c'est que le point de vue apologétique est devenu doctrinal. C'est comme toujours. Alors, à ce moment-là, l'homme passe devant. Et alors, on est en face d'une anthropologie qui supprime la métaphysique. Vous voyez ? Quand Rahner nous dit que le grand tournant théologique, c'est l'anthropologie qui remplace la métaphysique, on voit très bien ce qu'il veut dire. Et au fond, c'était déjà impliqué là-dedans. Alors, c'est pour ça que je souligne cela. La sainte